CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG du pays Midi-Quercy dans lequel on va parler de la 20e édition du concours des vins AOC Coteaux du Quercy. Ce sera dans une deuxième partie de cette édition, mais avant ça, un projet d'opéra pour les enfants monté par l'association Cantabile. C'est avec Nina Joussin qu'on en parle immédiatement. Les aventures de Gulliver, c'est le nom d'un opéra qui nous est proposé par l'école de musique Cantabile, dont Nina Joussin est la coordinatrice. Bonjour Nina.
Bonjour.
Un opéra un petit peu exceptionnel puisqu'il s'agit d'un opéra mis en scène, interprété par les élèves des écoles de Genébrière, La Salvetta Belmonté et celle de Léo Jacques. Un projet qui court depuis un petit bout de temps parce que ça se fait pas comme ça la représentation d'un opéra, puisqu'en plus c'est vous qui avez tout remis en place, tout refondu.
Disons que oui, ce projet il commence à dater déjà de quelques années, depuis l'idée qui a germé dans nos petites têtes. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment de faire une création d'un opéra par les enfants et avec les enfants. Et c'est ce que nous avons fait. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur ce projet avec les enfants, donc depuis septembre 2017. Et on arrive à la conclusion finale de ce projet, la création de la musique, des textes, des décors, de la mise en scène. Tout ça, on va présenter au public le mardi 4 juin. À Montbeton.
Alors c'est dans un mois, on a le temps de réserver ces places. Vous nous parlez de création, c'est-à-dire que vous avez complètement remanié cette pièce, le Voyage de Gulliver, avec la création littéraire, musicale, tout quoi.
Oui, c'est tout à fait ça, oui, complètement. Les enseignants ont choisi les scènes qu'ils ont trouvées les plus intéressantes pour leurs élèves. Et les enfants se sont emparés de ces textes de Jonathan Swift et ils ont réécrit complètement les textes. Ils ont inventé de nouveaux personnages, de nouveaux peuples. Et c'est vraiment passionnant ce qui arrive à Gulliver dans notre opéra. Voilà.
C'est-à-dire que c'est vraiment les enfants qui ont décidé de la tournure que prendrait un opéra. Un opéra, ça se fait pas comme ça.
Et disons qu'ils étaient aidés par des professionnels, donc des musiciens, des auteurs, des compositeurs, et cette année encore par une metteur en scène professionnelle. Donc nous les avons guidés de façon à ce que leurs idées très nouvelles, très créatrices, qu'on puisse les mettre en forme et que ça donne quelque chose de cohérent et d'intéressant à voir et à écouter.
Alors, en parlant d'écouter, création musicale aussi.
Création musicale totalement entière aussi, là aussi. C'est que les enfants ont donné plein d'idées, de thèmes, de motifs musicaux que l'auteur compositeur de l'année dernière et aujourd'hui, cette année, c'est encore une autre personne qui a travaillé avec nous. Ils ont mis en forme, comme je dis. Il y a des chœurs où tous les enfants chantent en représentant leur peuple. Il y a des solos, il y a des duos. C'est vraiment un opéra où on retrouve toutes les parties en fait d'un vrai opéra.
Et les enfants qui chantent devant tout le monde comme ça, en plus en solo dans un opéra, la gestion du stress, ça va, ça se passe bien?
Oui, là nous avons un petit peu triché en fait.
Alors.
Nous avons un petit peu triché parce que justement on s'était dit que les enfants n'ont pas vraiment cette habitude de la scène, du théâtre et du grand public. Et nous avons proposé à ce qu'il y ait plusieurs enfants par personnage. Ça veut dire que Gulliver, dans chaque scène, par exemple, il est incarné par 2 ou 3 enfants qui chantent en même temps, mais c'est pour représenter un seul personnage. Voilà.
Alors on est d'accord qu'ils chantent pas comme des comme des gens qui font de l'opéra, comme on dit.
Non, bien sûr. Oui. Tant qu'on est enfant, on ne peut pas, on n'a pas la capacité vocale de produire un son d'un vrai chanteur d'opéra, d'une cantatrice. On n'a pas encore la capacité physique, on va dire physiologique. Donc ils chantent avec leur voix d'enfant qu'on a essayé de développer au maximum possible, mais ce sera tout à fait, un spectacle d'enfants à leur niveau, à leur, avec leur
leur voix, leur décor aussi.
Décor, c'est encore autre chose parce que nous avons 8 classes qui ont participé dans ce projet et c'était assez difficile d'imaginer le changement de décor physique comme dans un vrai théâtre après chaque scène puisque toutes les scènes sont différentes, les peuples sont totalement à l'opposé comme des géants et des minimus, donc les petits peuples, les gens qui habitent au ciel et d'autres qui habitent sous la terre. Enfin, c'était complètement inimaginable de travailler les décors physiques. Donc, les enfants ont fait plein de dessins qui représentent les scènes et on va les projeter sur un grand écran pendant le spectacle. Mmh. Voilà, ce sera un décor immatériel.
Et alors, à tout ça, à la création littéraire, musicale, le chant, la mise en scène, les décors, vous êtes combien d'intervenants à avoir encadré ces 3 écoles ?
En tout, sur 2 ans, nous étions 5. Voilà. Plus, bien sûr, les enseignants qui ont fait une grande part du travail de création littéraire. Mmh. Et bien sûr, qui ont travaillé beaucoup sur les dessins et l'apprentissage des chants entre les séances.
Qu'est-ce qu'ils en pensent, les enfants, à un mois de la représentation, là ?
Je pense que le stress commence à monter.
Surtout pour
vous. Je commence à réaliser. Oui. Pour nous, oui, depuis longtemps. Mais les enfants, oui, ils commencent à réaliser qu'il y aura beaucoup de public dans la salle et que c'est effectivement stressant de chanter devant tout le monde, surtout quand on incarne un personnage. Voilà. Et on commence à réaliser tous qu'un opéra, c'est quand même complexe. Il y a tellement de choses à la fois. Il faut être chanteur, mais aussi acteur. Il faut savoir à quel moment, qu'est-ce que tu dois faire, comment faire vivre ton personnage. Et d'autant plus que tous les enfants de chaque école, ils participent dans chaque scène de son école, en fait. On a fait de sorte à ce que il y ait la classe qui est sur la scène, qui joue son histoire, par exemple. À côté, on a une autre classe qui fait des passages sonores avec des instruments à leur disposition. Et encore devant la scène, on aura une troisième groupe qui va chanter la deuxième voix des chœurs, en fait. Donc, ça va être quelque chose d'assez assez impressionnant, je pense.
Et qui demande une organisation de dingue, là.
C'est ça, la coordination de tout ce petit monde, ça va être, je pense, l'enjeu de ce spectacle. Et on aura vraiment besoin de la concentration de tous.
c'est un projet entre donc, ces 3 écoles, Genébrière, La Salvetat, Belmonté et Léo Jacques, qui est un petit peu orchestré par votre association Cantabile, l'école de musique, donc, qui a été soutenue par les municipalités, j'imagine. Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous avez pu mettre en place ce fou projet ?
C'est le cas de le dire, effectivement. Mais, disons que comme le projet a été né il y a déjà presque 3 ans, l'idée était venue dans nos têtes il y a 3 ans, et nous étions l'école de musique de ce territoire où se trouvent justement les écoles de Genébrière, Bermonté et Léo Jacques. Et nous avons cherché à créer ce lien avec les enfants d'autres communes que là où nous sommes, en fait, à l'enclair de Quercy. Et nous sommes allés à la rencontre de ces écoles et ces communes. Et l'idée a bien pris, bien plu aux personnes que nous avons rencontrées. Et nous avons pu très rapidement avoir le soutien non seulement des municipalités de ces écoles-là, mais également de la communauté de communes qui est devenue plus tard à Kersever-Aveyron. Ensuite, le département de Tarn-et-Garonne et également Canopé, c'est une institution qui soutient les projets du ministère de l'Éducation, donc de tout ce qui est éducation nationale, etc. On a plein d'autres soutiens que je ne vais peut-être pas citer ici, mais le plus important qu'il faut quand même rappeler, sans lequel on n'aurait vraiment pas pu mettre en œuvre ce projet, c'est le Fonds européen Leader, qui est notre le plus grand soutien en fait.
Et qui est orchestré par le PMI d'Icercy. Comme quoi, quand on a un projet complètement fou, bah, faut y aller quand même et puis les autres y suivent.
Il faut y croire.
Il faut y croire. c'est une question un peu bizarre, mais à la louche, vous avez travaillé combien d'heures par semaine là, depuis 3 ans sur ce projet ?
Oula.
Ouais, voilà.
Hein. Officiellement ou officieusement ?
Alors, on va dire officieusement. Moi, je suis curieuse.
Bah, dis donc, un simple exemple, le 1er mai, le jour de la fête de travail, la metteur en scène et moi, nous avons travaillé toute la journée, du matin au soir, pour mettre en image tous les décors dessinés par les enfants, pour les mettre en petite vidéo qu'on va projeter. Donc, on a bien fêté le 1er mai. Voilà.
Nina, vous êtes aussi...
C'est un petit peu à l'image.
Ouais. Vous êtes aussi prof de piano. C'est vous qui allez les accompagner pendant l'opéra ?
Oui, c'est exactement ça. En fait, dans l'opéra, je travaille avec les enfants. Je les fais chanter, tout ce qui est la partie vocale. Mais aussi, je les accompagne au piano. On aura également les professeurs de l'école de musique Cantabile qui préparent les accompagnements. On a fait des arrangements en fait, de tous les chœurs, de tous les solos, enfin, de toutes les musiques en fait, de l'opéra. Et on fera également participer des enfants, des élèves de l'école de musique pour certains morceaux. Donc, on aura un petit orchestre qui va être composé de guitare, de violon, des harpes et de piano.
Ah, voilà. D'accord. Vous disiez juste avant que les enfants des trois écoles avaient participé à la création musicale, c'est-à-dire qu'ils ont chantonné des petits sons que vous avez, vous, partitionnés.
Exactement.
Ouais.
Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement comme ça.
Et du coup, ils lisent la musique, hein, ou c'est...
Non. Pour la plupart, ils ne connaissent pas le solfège, ils ne lisent pas la musique, mais à l'oreille, vraiment, c'est... La création, c'est quelque chose de spontané. Et c'est ça qui est bien dans ce projet, c'est que n'importe quel enfant pouvait donner son idée, sa vision musicale de son personnage. Et c'est ça qui a pu marcher, en fait.
Et du coup, le projet courait sur 2 ans, c'est-à-dire que ce sont les mêmes enfants qui ont travaillé pendant 2 ans à la création de cet opéra.
Pratiquement, oui, sauf les CM2 de l'année dernière qui sont partis, et les CP de cette année qui se sont rajoutés dans le projet, qui sont intégrés en cours de route.
Eh ben, bonjour la frustration pour les CM2 qui sont partis, du coup. Et puis, la représentation, c'est donc le 4
juin à 20h, à l'espace Jean Bourdette à Montbeton.
Il n'y aura qu'une seule représentation.
C'est ça qui est frustrant.
Ah oui, un peu.
Oui.
Bon, il faut la filmer.
Ça, justement. On va la filmer, exactement. C'est une très bonne remarque que vous faites, Lisa. On a une autre association partenaire en fait, de notre projet, c'est le Fonds de la Forme, qui suit la création depuis l'année dernière, en fait, qui fait d'abord un petit film du projet sur les séances de travail, comment ça s'est passé la création, l'apprentissage, la mise en scène, tout, toutes les étapes. Et on va d'ailleurs projeter ce petit film juste avant le spectacle, le 4 juin. Et le jour du spectacle, ils vont faire la captation de tout le spectacle et enfin on va avoir un petit DVD qui va comprendre les deux films en fait.
Voilà. Et bien, pour ceux qui louperaient la représentation le 4, bon, ce sera toujours ça, hein, toujours ça de prix. Du coup, merci le Fond et la Forme.
Oui.
Et un grand merci à vous, Nina Joussin, donc coordinatrice et prof de piano, création musicale, notamment sur ce renouveau des voyages des Gullivers. Merci Nina Joussin.
Merci, au revoir.
CFM et le MAG du Pays Midi Quercy. On va parler de la 20e édition du concours des vins de l'AOC Coteau du Quercy. Ce sera juste après Alex Hepburn et Take Home to Mama. Grâce au syndicat de défense de l'AOC Coteau du Quercy, on va avoir droit au nouveau palmarès 2019 de ce qui se fait de meilleur dans le coin. On est bien en train de parler de vin et c'est Alix Fuchs qui va répondre à toutes mes questions. Bonjour Alix.
Oui, bonjour Isa, bonjour à tous.
Vous êtes animatrice au sein du syndicat de défense de l'AOC Coteau du Quercy et vous organisez donc pour le mardi 14 mai du côté de Montalza la 20e édition. Rien que ça, du concours des vins AOC Coteau du Quercy. Alors, c'est pas rendez-vous à tout le monde, hein, du côté de la mairie, il va y avoir... Comment ça se passe, alors?
Alors, comment ça se passe? Donc, c'est un concours officiel qui permet effectivement de sélectionner chaque année, donc depuis 20 ans, comme vous l'avez dit, les meilleures bouteilles de l'AOC Coteau du Quercy. Donc, c'est, je rappelle, une appellation en rouge et en rosé uniquement. Donc d'un côté on a les vignerons qui proposent leurs vins à la dégustation, donc ces vins là sont anonymés, et ensuite on a des dégustateurs le jour du concours, donc le 14 mai, qui dégustent les vins et qui après consensus désignent les meilleures bouteilles et donc attribue les médailles d'or, d'argent et de bronze pour le palmarès du concours des vins de l'AOC Coteaux du Quercy.
Les médailles que nous, consommateurs, on retrouve en boutique, vous nous proposez un petit coup de pouce pour choisir les meilleures bouteilles. Alors le concours, c'est du sérieux, hein, c'est du anonyme, silencieux, coché, casé, il faut s'inscrire trois plombes à l'avance, tout ça.
Tout à fait, voilà, c'est un concours officiel, donc comme tout concours officiel, donc on a déposé un règlement auprès de la directe, donc voilà, qui énonce un petit peu tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire. Donc chaque dégustateur est effectivement invité donc à déguster tous les échantillons de sa table de façon individuelle, et ensuite donc il marque ce qu'il a trouvé pour chaque échantillon sur une grille de dégustation. Et ensuite, une fois que tous les dégustateurs de la table ont fini de déguster chacun de leur côté, il y a une mise en commun et une discussion pour savoir effectivement quel vin sera placé en haut du palmarès ou pas. Voilà, alors, sachant que effectivement, j'en profite aussi pour dire qu'en même temps, il y a le concours des jus de Chasselas qui se fait également ce jour-là. Un petit coucou, voilà, pour l'animatrice et le syndicat des jus de Chasselas de Moissac.
Alors ça, c'est le concours officiel. En non officiel, vous nous proposez un petit quelque chose aussi en plus.
Alors cette année, effectivement, comme vous le savez, on en avait déjà discuté, le vignoble des Coteaux du Quercy souhaite être labellisé vignoble et découverte, ce qui permettra de créer une destination œnotouristique sur le territoire du vignoble. Et donc cette année, on a eu une idée, justement pour commencer un petit peu à fédérer les prestataires qui sont signataires du label. Donc le label, on sait pas si on l'a ou pas. On saura très vite, peut-être le jour du concours, la réponse. On attend la réponse sous 15 jours à peu près maintenant. Et donc l'idée, c'était de commencer un petit peu à faire des événements un petit peu intéressants au niveau de ce réseau qu'on a créé. Et donc cette année, on a décidé, à côté du concours officiel, de faire une dégustation qu'on appelle une dégustation coup de cœur du réseau Vignoble et Découverte. Et l'idée, c'est que les prestataires du label qui le souhaitent puissent déguster, alors tout pareil, de façon anonyme également, des vins des Coteaux du Quercy qui seront anonymés. Et qu'ils puissent voter effectivement eux leur coup de cœur en tant que voilà restaurateur, hébergeur, site de patrimoine, site touristique, voilà, ça serait intéressant aussi d'avoir un avis autre que l'avis des professionnels comme pour le concours des vins officiels.
Tout à fait. Et par rapport à l'évolution en 20 ans, donc c'est la 20e édition de ce concours, est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de ce qui s'y passe, des vins, des participants, des prestataires? Comment ça va?
Alors l'évolution, ce qui est intéressant dans un concours, c'est que les autres, chaque vigneron peut aussi voir ce que fait chacun. Chaque membre de l'appellation, donc c'est toujours intéressant de pouvoir avoir sur une même journée la possibilité de déguster ce que font les voisins. Et ça permet de se situer par rapport à l'appellation, si d'échanger aussi pour les vignerons les des avancées techniques ou des petites astuces qui font que chacun aussi progresse de son côté. Après, au niveau consommateur, c'est toujours intéressant effectivement d'avoir des jurés qui désignent chaque année un petit peu les meilleures bouteilles, sachant que même une bouteille pas médaillée est quand même une bonne bouteille, hein, y a pas de raison. La médaille, ça fait pas tout, mais c'est vrai que voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un groupe qui s'est réuni et qui a désigné ce vin comme étant le meilleur de la table de dégustation.
Au sein du syndicat, c'est un petit peu complètement votre rôle, ça, de fédérer, de transmettre et sélectionner le meilleur.
Voilà, nous, c'est vraiment ça le rôle du syndicat, c'est promouvoir, faire parler des vins du Quercy, les mettre en avant, faire évoluer le groupe, leur proposer des manifestations en commun, les fédérer, créer des espaces d'échange, de rencontres aussi, parce que finalement des fois ils sont voisins mais ils se voyaient pas forcément, donc c'est aussi sur des manifestations comme ça que les vignerons se rencontrent. Ils rencontrent aussi d'autres professionnels du milieu du vin, des sommeliers, des restaurateurs, donc c'est bien aussi d'avoir toujours l'amont et l'aval qui se rencontrent pour faire évoluer une filière et un vignoble.
Ce sera à partir de ce 14 mai donc qu'on pourra voir les résultats directement tout de suite après le concours.
En général, oui, je fais une publication sur le Facebook donc du syndicat. Et après, voilà, le palmarès sera effectivement aussi affiché sur le site internet des Coteaux du Quercy. Donc en général, voilà, c'est dans la journée ou le lendemain, mais on essaye de faire des publications assez rapidement. On est content de faire passer l'information.
Bah oui, www.20-coteaux-quercy.fr, Facebook aussi. Et donc on attend très rapidement des nouvelles de la destination œnotouristique des Coteaux du Quercy.
Tout à fait, en espérant que voilà, on aura une réponse peut-être pour le concours.
et à venir au syndicat, prochaine manifestation, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors la prochaine grande manifestation ouverte au public, ça sera la fête des vins des Coteaux du Quercy, donc le 10 août à Castelnau-Montratier. Voilà, donc ça c'est la fête annuelle où effectivement sur toute la journée où les visiteurs ont la possibilité de venir déguster les vins chez chaque vigneron, de se restaurer sur place, d'écouter de la bonne musique, de participer à des ateliers d'animation autour de l'œnologie, mais pas que, il y a aussi des animations pour les enfants, il y a plein de choses à faire pour passer une bonne journée.
Sinon, rendez-vous dans les magasins pour scruter les bouteilles à la recherche des petites vignettes, des médailles que vous allez décerner donc à partir du mardi 14.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Alexus. Je le redis, donc www.20-coteaux-quercy.fr pour tout savoir. Et je rappelle que vous êtes l'animatrice donc de ce syndicat de défense de l'AOC Coteaux du Quercy. Un grand merci, Alex.
Merci à vous, Lisa. Bonne journée.
Pareillement.
Merci, au revoir.
Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.